Nous allons tourner dans 2 Timothée, 2 Timothée 1, verset 1 à 8. Il est dit ceci dans 2 Timothée 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la présentation, Paul qui se présente. Et là, il écrit, c'est une lettre personnelle qu'il écrit à Timothée, donc il va donner des recommandations à Timothée. Et au verset 3, il dit ceci, il dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Donc Paul prie pour Timothée. Et nous aussi, on peut se rappeler des gens, on peut se souvenir des gens dans nos prières. Juste lorsqu'on prie pour les gens, c'est comme on se rappelle d'eux. On se rappelle d'eux, ça c'est beau ça, de savoir. Je prie pour quelqu'un. Et en priant pour la personne, c'est comme je me rappelle de lui. Je me rappelle, je prie pour Dieu. Pense de lui. Ça fait des années, bien de moi, je ne vais plus le voir. Il est quelque part lointain, je prie pour lui. Mais là, Paul a une relation avec Timothée, là, il le l'amène devant Dieu parce qu'il prie pour lui. Parce qu'il y a des choses que Paul peut faire pour Timothée. Il y a des choses que Paul ne peut pas faire. Parce qu'il peut-être il est loin, il est incapable. Là, il désire que Dieu puisse intervenir dans la vie de Timothée. C'est ça, c'est merveilleux. De voir que nous pouvons invoquer le Seigneur pour les gens. Et c'est une forme de souvenir qu'on a vis-à-vis des gens. Et là, au verset 4, il dit ceci. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Louis, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ça, on voit, là ici, on voit 3 générations ici. On voit la grand-mère de Timothée, la mère de Timothée, Timothée lui-même. C'est beau de voir cette transmission-là. On voit que sa grand-mère, cette mère a transmis à la mère de Timothée, et Timothée a transmis, et quoi? Et à la mère de Timothée, il a transmis des choses. De voir les générations, ce qu'on peut transmettre aux générations. Il y a des choses qu'on peut transmettre aux générations, ça peut être des biens matériels, beaucoup de choses. Mais ici, on voit que c'est la foi qui a été transmise à ces générations. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à des générations, à des générations qui vont nous suivre. La prochaine génération, qu'est-ce qu'on va les laisser? Il y a l'histoire qu'on va laisser, il y a de toute façon, on a hérité la vieille nature, le péché. Mais on voit que ici, la grand-mère de Timothée, la mère de Timothée, lui ont légué quelque chose de précieux, et c'est la foi. C'est la confiance en Jésus-Christ. Et c'est ça qui va accompagner Timothée, ça qui va l'aider. Dieu va l'appeler plus tard, ça c'est beau de voir. Si on a un trésor, si on a une prière à faire, une supplication à faire à l'Éternel, c'est de voir, je vais laisser la foi à la prochaine génération. Qu'est-ce que je laisse à la prochaine génération? On voit que Josué a laissé la foi à la prochaine génération. Moïse a laissé la foi à la prochaine génération. David a laissé la foi à la prochaine génération. Avant que David ne meure, il donne plusieurs directives à son fils Salomon. Parce que Salomon n'était pas un homme de guerre. Il donne plusieurs directives. Et dans une des directives qu'il donnait, il dit, ne te détourne pas de la loi de l'Éternel. Sois attaché à la loi de l'Éternel. Donc, il est en train de lui donner comme héritage à la génération de Salomon, la foi. Et on va voir que le fils de Salomon, Roboam, lorsqu'on va le voir, les gens vont venir lui proposer des choses. Il ne va pas écouter les dieux. Parce qu'il ne va pas recevoir cette transmission qui a été faite par son grand-père David et ni par son père Salomon. Et à cause de Roboam qui ne va pas saisir cette fois, le royaume va être divisé. Voici le plus beau cadeau qu'on peut faire à la prochaine génération aux gens, c'est la transmission de la foi.
de croire en Jésus-Christ, de croire la Bible. Et là, ça fait la différence. On ne sait pas ce qu'ils vont vivre. Ils vont avoir leurs défis, leurs difficultés. Chaque génération, ses défis, ses difficultés. Ce n'est pas les mêmes défis que Timothée avait, que par rapport à sa grand-mère avait. Vous savez, mais ce qui va le garder, il va le sauver, c'est la confiance en Jésus-Christ, c'est la foi. Et là, cette transmission que sa grand-mère a fait. Et là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut, nous aussi, on peut faire. Si on a l'occasion d'avoir des richesses, donnons ces richesses à la prochaine génération, mais pensons à ça. Ils transmettent la foi comme un cadeau, comme bien précieux à la génération suivante. Verset 6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Là, au verset 6, on voit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu. On voit plus ici, Timothée a reçu un don. Il a reçu un don. Et là, il parle des positions des mains, parce que Timothée va être le pasteur. Et ce n'est pas l'imposition des mains qui transmet les dons. Pas vrai. Mais l'imposition des mains, c'est juste les gens, ils sont d'accord, ils disent quelque chose. Et là, ils sont d'accord avec Timothée, ils vont leur donner comme pasteur, comme responsable, pour pouvoir diriger les églises. C'est ça que Paul évoque ici. Mais on va parler du don que Dieu a donné à Timothée. Timothée a reçu un don. Il lui a donné ça. Et nous aussi, Dieu nous a fait des dons. Mais là, ce qui me touche ici, c'est le verset 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais au contraire, un esprit rempli de force, d'amour, de sagesse. Là, qu'est-ce que Paul dit ici? Paul dit à Timothée, je t'ai donné quelque chose. Et je t'encourage à vivre dans ce que Dieu t'a donné. Ne vis pas dans la timidité. Donc, ce que je veux parler ce soir, c'est de vivre dans ce que Dieu nous a donné. Parce que là, on va voir que Timothée va vivre dans autre chose. Il va vivre dans la timidité, il va vivre dans la peur. Alors que Dieu va lui donner un défi, il y aura des responsabilités à s'occuper des gens, à s'occuper des églises, à refuter des faux enseignants. Et là, Paul va lui dire que non, pour pouvoir faire ça, il faut que tu vives dans ce que Dieu t'a donné. Et nous aussi, Dieu désire que le croyant vive dans ce que le Seigneur lui a donné. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Et Dieu désire que nous puissions vivre dedans. Alors que nous, on vit à côté de ce que Dieu nous a donné. Nous vivons à côté. Nous sommes épanouis pleinement parce que nous vivons dans ce que Dieu nous a donné. Imaginons les 12 tribus. Il y a un des tribus qui dit, non, je veux vivre dans l'autre tribu. Imaginez que les Lévites, ils veulent vivre comme les autres tribus peuvent vivre, comme les autres tribus. Donc, Dieu nous a fait des dons. Et Dieu désire que nous, les colons, puissions vivre dans ces dons. On va voir quelques dons, quelques privilèges que Dieu nous a donnés. Dieu désire que nous puissions vivre dedans. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez, je pense, ça me vient. Imagine que tu es père, ou bien on est mère, ou bien on est oncle, ou bien tonton. On est une famille. Quelque chose. C'est Dieu qui nous a donné ça. C'est un privilège. Mais je vis comme un tonton, je vis comme un père, une mère. Et peut-être l'autre mère qui est à côté est plus intelligente, est plus belle, ou bien le père est plus beau que l'autre père qui est à côté. Mais c'est privilège, Dieu t'a donné quelque chose. Je vis dedans. Une première chose que nous voyons que Dieu nous a donné, on voit ça dans Jean 14, verset 27. C'est Jésus qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit au ciel, dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Dans ce verset, nous pouvons relever deux choses par rapport à ce thème que nous abordons. Nous voyons que le monde veut aussi nous donner des choses. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc le monde nous propose des choses. Le monde veut nous donner des choses. Comme exemple, comme quoi le monde peut nous donner? Le monde peut nous donner la peur, la crainte, ou bien le désespoir, ou bien le doute. propos. Le monde veut nous donner des choses. Et lorsque ce que le monde nous donne, c'est pas seulement il nous donne. Le monde nous donne, c'est qu'il veut que nous puissions vivre dans ces choses. Nous puissions vivre dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse. Il y a des gens parfois qui arrivent et disent non, je suis trop stressé. Non, parce que le monde donne. Non, on est dans l'ambiance. Il dit non, je suis stressé. Alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de stressant. Si je vais ailleurs bien comme ça, la vie est faite comme ça, je suis en voiture bien, je fais la queue, mais on dit que non, je suis stressé parce que le monde propose ça. J'ai peur. Parfois on ne sait même pas pourquoi j'ai peur, bien, je ne suis pas bien, parce que c'est le monde qui nous propose, qui nous offre ça, et le monde veut qu'on puisse prendre ça. Et là, parfois nous, lorsqu'on n'est pas dedans, on dit que non, ce n'est pas normal. Ou bien les gens même nous accusent, non. Nous ne recevons pas, nous ne prenons pas, nous ne vivons pas dans ce que le monde nous donne. Dieu nous donne autre chose. Là, Jésus dit que je vous donne ma paix. Mais la deuxième chose, c'est qu'on voit que Dieu nous donne autre chose aussi. Autre chose que Dieu nous donne. Et ces choses, Dieu voudrait que nous puissions vivre dedans. Il dit, je vous donne ma paix. Imaginez ça, Dieu nous donne sa paix. Il voudrait que je vive dans cette paix. Peut-être que je suis troublé. Et là, Dieu dit que non, que tu es en paix avec moi, parce que mon fils a payé le prix sur la croix. Tu es en paix avec moi. Imagine quelqu'un qui a fait quelque chose, il reçoit la grâce présidentielle. Le président sort un décret, il signe le décret. Et donc, les juges appliquent le décret, dit que non, voilà, selon la loi, attends, ils ont respecté, voilà, le président signe le décret, on applique, on sort. Celui qui a fait quelque chose, et on le sort. Peut-être il est là, il n'est pas bien, non. Mais à cause de la grâce présidentielle, à cause de. Voilà, peut-être le président peut faire quelque chose, et il signe un décret, et lui, il est au bénéfice de ça. Peut-être il ne mérite pas. Dieu ne donne ça, il ne mérite pas. Dieu ne donne sa paix. Imaginez ça. Il dit, et Dieu désire simplement que nous puissions vivre dans cette paix-là, dans cette tranquillité-là. Est-ce qu'il nous donne sa bonté? Vous pensez à ça. David, qui a le petit-fils de Saül à sa table. Imagine lorsqu'il le voit. Qu'est-ce qu'il pouvait imaginer? Peut-être, lorsqu'il voit Mephibosheth, tout le temps il va penser peut-être quoi? À la rancœur. Tous les jours, il mangeait à sa table. Il penserait quoi? Parce que Dieu a donné la bonté à David. David a vécu dans cette bonté-là. Il voyait Mephibosheth, mais on dirait que c'était effacé. Il ne se rappelait plus. Alors que Dieu dit, peut-être que c'est son grand-père qui l'a poussé des années. Il se cachait dans les cavernes. Il était dans le désert, il fuyait. Il était exposé. Il était parti chez les ennemis, chez les Philistins. Un jour, il devait partir en guerre avec les Philistins. Les Philistins lui disent non. S'il part en guerre avec nous, avec le peu de Dieu, si ça tourne mal, il pouvait se retourner comme nous. Ils ont dit David, un Samuel 30, ils disent retourne chez toi. Ils l'ont renvoyé. Vous savez, à cause de qui? À cause de Saül. Donc, ça pouvait faire quelque chose à Saül. Mais Dieu, David voyait que dans tout ça, là, il n'est pas mort. Il était protégé. Donc, Dieu lui a donné cette bonté-là. Si lorsque vous voyez ces sommes-là, il crie des sommes, il était juste en train de pencher son cœur. Mais il a expérimenté cette bonté-là. Dieu lui a donné ça. Il a vécu dedans. Vous pouvez vivre dans la nature. Pourquoi ça il me veut? Ça il me veut maintenant, il peut vivre dans ça. Non, il vit dans la bonté de Dieu. Et lorsqu'il a l'occasion deux fois de tuer Saül, il ne l'a pas fait. Et lorsqu'il a l'occasion de faire du bien à la descendante de Saül, il le fait. Il lui fait du bien. Donc il vit dedans. Il vit dans ce que Dieu lui a donné. Le monde lui propose autre chose. Et j'ai dit non. Celui qui nous poursuit, on a l'occasion de le tuer, de le descendre. Pourquoi tu ne le fais pas? Là, on est tranquille. David, non, on ne va pas toucher à l'eau de l'Éternel. Celui qui est revenu dit, annoncer que Jonathan est mort, Samuel est mort, il a donné l'a fait tuer. David dit, je l'ai tué parce que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas tuer l'eau. Pourquoi David a vécu? Parce qu'on voit dans les traces de la vie de David qu'il a vécu dans ce que Dieu lui a donné, cette bonté-là. Et Dieu va l'appeler l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David va vivre dans cette bonté-là. Le monde lui proposait autre chose. C'est guérir les gens qui étaient autour de lui, lui proposaient autre chose. Mais lui vivait dans cette bonté-là. Dieu nous donne son amour. Pensons à Jean, l'apôtre Jean. Eux qui disaient qu'ils voulaient faire descendre le feu sur les gens. il expérimente l'amour de Dieu, il va être sur l'amour. Il nous l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Et ils vont vivre dans ce que Dieu leur a donné, l'amour et non la haine. Je peux vivre dans la haine parce que le monde me donne ça, le monde me propose ça. Mais je vis dans l'amour inconditionnel, l'amour qui supporte tout. L'amour qui pardonne. L'amour qui supporte. C'est merveilleux. Je veux vivre dans ça. Et ça, c'est bouleversant. Et ça a des conséquences. Ça transforme les choses. Jésus lui-même, tout à l'heure, on va voir cet exemple deuxième. Jésus lui-même a vécu dans ce que le Père lui a donné. On voit l'exemple de Jésus dans Matthieu 4. Matthieu 4 et Luc 4, c'est la tentation de Jésus-Christ. Il y a plusieurs choses que nous pouvons voir dedans, mais regardez la conversation avec Jésus et il y a Matthieu 4, 8 à 10. Merveilleux de vivre dans ce que Dieu nous donne. Et là, ça procure la paix, la joie, la tranquillité. Sauf que c'est Dieu qui nous a donné une bonne ça. Matthieu 4, verset 8 à 10, il dit ceci. Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Le diable propose à Jésus que je vais lui donner, je vais te donner quelque chose. Regardons la suite. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes, tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce que nous voulons ici? Nous voulons que le diable désire aussi nous donner des choses. Et il voudrait qu'on vive dans ces choses. Il dit à Jésus, je vais te donner. Si tu es prêt, je te donne. Le diable aussi nous propose des choses. Le diable aussi veut nous donner des choses. Mais ce qu'il nous donne, il nous trompe. Il dit, nous, on n'est pas, voilà, on ne reconnaît pas, mais c'est au fruit qu'on reconnaît que le diable. Le diable est venu à donner des choses à Ève, à ton père. Il dit, je vais te donner la liberté. Tu vas t'indépendre, c'est pas vrai. Donc, le diable aussi veut nous donner des choses, nous propose des choses. Et ce qu'il donne, c'est pas simplement il donne, on met dans la poche. Non, il donne, il veut qu'on vive dedans. Il donne, il veut qu'on vive dedans. Qu'on vive dans la crainte, dans la peur, dans ce qu'il donne. Il donne pas simplement, il donne qu'on puisse vivre dedans. Mais on voit que, ici là, qu'est-ce que le diable donne ici à Jésus? C'est ce qu'il donne ici. Il donne à Jésus ici à tes obéissances. Il voudrait que Jésus vive dans la désobéissance. Il propose ça. C'est ça. Et là, il ne lui dit pas. C'est ça. Je vais te donner ça. Mais c'est la désobéissance qu'il propose à Jésus-Christ. De vivre dans la désobéissance au Père. De vivre dans la désobéissance à la parole de Dieu. Il propose ça. Jésus va dire ça. Jésus va dire non. Je ne veux pas vivre dans ce que le diable nous propose. Jésus va refuser ça. Refusons la désobéissance que le diable nous propose. Et là, qu'est-ce que Jésus va répondre? Il va répondre, qu'est-ce que Dieu va donner à Jésus? Il va répondre par l'obéissance au Père. C'est ça. Il va répondre par l'obéissance à la parole. Il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Au Seigneur, il dit. Parce que le diable dit que si tu m'adores, c'est la condition. La condition, c'est que tu m'adores, tu te prosternes, tu m'adores, je vais te donner. Et non, Dieu a dit, il faut adorer le Seigneur, lui seul. Et donc, et qui va vivre dans l'obéissance. Mes amis, Dieu nous a donné l'obéissance. C'est, parfois, ou bien, à nous, partout, on dit, tourne ici, on ne comprend pas, on dit, ah, pourquoi il me dit ça de tourner ça? Ou bien, on argumente. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on n'a pas ce terreau, ou bien, cette disposition d'obéir. Je dis à mes enfants, non, c'est pas, on va expliquer après, mais ce qu'on t'apprend maintenant, on t'apprend au pays. Parce que si demain, là, on dit de tourner à gauche, tu sais pas, alors qu'il y a le feu là-bas, Oh, on n'a pas le temps de t'expliquer qu'il y a le feu parce qu'il y a du monde. Quand tu vas là-bas, tu vas être brûlé. Donc, parfois, Dieu nous dit des choses d'obéir. Dieu ne nous explique pas forcément. Après, on va comprendre, il va nous expliquer. Mais là, Jésus-Christ vit dans ce que Dieu lui a donné l'obéissance. Obéissant, obéir à sa parole. Dieu nous a donné ce privilège d'obéir à sa parole. Lorsqu'on obéit à sa parole, il y a des fruits. Il est dit dans le proverbe que les proverbes ont été écrits pour que les gens simples, les gens sans expérience, puissent avoir de l'expérience. S'il y a des choses que je n'ai jamais expérimentées, on dit que lorsqu'on vole, on va en prison. Ou bien on vole, on est châtié. Peut-être je n'ai jamais été en prison, ou bien je n'ai jamais volé. Mais bon, si je ne vole pas, j'obéis à ça, je vais y échapper. Je ne vais pas vivre ça. Le proverbe est écrit pour que les gens sans expérience puissent avoir de l'expérience en obéissant juste. Donc, Dieu nous donne ce privilège d'obéir. Alors que nous, dans l'homme, la Bible dit, dans le péché, que nous sommes des enfants de désobéissance, par nature. Parce qu'au fond de nous, il y a des choses qui s'opposent. Moi, je ne veux pas obéir. Mais Dieu nous propose ça, obéir. C'est merveilleux. Je ne comprends pas. Dieu dit, apporte-moi tes besoins. Invoque-moi. Apporte-moi tes besoins. Je ne comprends pas. Comment tu vas répondre? Mais je ne commence pas à argumenter. Moi, j'apporte. J'obéis, j'apporte. Dieu fait l'impossible. Moi, lorsque je calcule, je ne peux même pas faire l'impossible. Donc, à cause de ça, je ne vais pas obéir. Comment je fais? À mon niveau, ce n'est pas possible. Je n'ai pas le résultat. Le résultat négatif, j'ai pas, donc je ne vais pas obéir. Je vais obéir. L'aveugle, il dit, donne à manger au prophète. C'est le reste que j'ai. Si je donne, je vais mourir moi et mon fils. Il dit, donne d'abord manger au prophète. Ça c'est pas dans l'ordre humain. Mais c'est dans l'ordre divin. J'obéis. Et là, Dieu nous donne ce privilège d'obéir à sa parole. D'obéir à ce qu'il nous dit. Parfois, Dieu dépose des choses dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous parle. Dieu dit qu'on puisse obéir. Nous allons vivre dans l'obéissance à Dieu. C'est lorsque j'étais à l'école. Et parce que qu'ils ont donné cette phrase, la vie marqué. Il dit l'obéissance spontanée ferme la porte aux doutes et aux questions. Si Dieu monte et je me demande des choses, j'obéis spontanément dans mon cœur. J'ai cette disposition. Et tu demandes ça, d'accord. Je demande de pardonner, d'accord. Je ne comprends pas, ça me fait mal. Alors que peut-être j'ai raison, je voudrais qu'on vienne s'agenouiller devant moi pour demander pardon, pour s'excuser. Pour partager les torts. Tu vois, non, il y a tort. On va faire 50-50. Ou bien 70-30. C'est bon, pas. Ça va? D'accord. Moi, je vais prendre 30 parce que j'ai moins de tort. À cette condition, je vais pardonner. Cet esprit dit pardonne, tu auras la paix. Pardonne, tu auras la tranquillité. Pardonne. Et tu vas voir que Dieu va faire le miracle. Comment se fait que l'autre ne vient pas dire non? Il dit que je vais m'occuper de lui. J'obéis. Acte 4, verset 19, il dit, il est plutôt bon d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Acte 5, 29, c'est les apôtres qui étaient confrontés. Ils demandent, à qui on va obéir? On va obéir à Dieu ou bien aux hommes? Donc, il dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dans le cas où l'homme dit quelque chose qui est contre ce que Dieu dit. Obéis à Dieu. Et quoi? Dieu est capable d'agir, de le protéger. Ils ont interdit d'adorer les dieux. Mais Daniel a dit que non, il va pas adorer, continue pas à prier. Il va avoir les conséquences. Mais vous savez quoi? Il a obéi à Dieu, mais Dieu l'a protégé. Dieu l'a délivré de la force de l'eau. Il l'a délivré de la foule des Adam. J'obéis. Peut-être ça va me gêner des choses que je n'ai pas envie d'avoir. Mais le puissant Dieu qui me demande d'obéir, il est puissant pour me garder, pour prendre soin de moi. Les conséquences de l'obéissance, il va s'en occuper. Parce que moi, j'imagine déjà les résultats, les effets de l'obéissance. Ce que ça peut engendrer, ce que ça peut donner. Ah là, ça me fait plaisir. Non, je ne veux pas. Le Seigneur, il va prendre soin des conséquences de notre obéissance à lui, s'il est fidèle, pas le laisser. Acte 7, verset 39. Il dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Ils n'ont pas voulu obéir à Dieu. Ils ont tourné leur cœur vers l'Égypte. Alors qu'ils sont élevés d'Égypte. Ils demandent d'obéir. Ils ne voulaient pas obéir. Ils sont tournés vers l'Égypte. Donc, tournons-nous vers l'Éternel, pas vers l'Égypte. Dieu nous donne le privilège, Dieu nous donne ce privilège d'obéir à sa parole. Nous pouvons vivre dedans. Ça, c'est merveilleux. Aux choses que nous pouvons voir, que Dieu nous donne. Jean 1, verset 16. Il est ici. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons reçu. Comment on reçoit? C'est que Dieu nous donne. C'est Dieu qui donne, on reçoit. Nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Ce que Dieu nous donne, sa grâce. Nous le sommes encore. Je suis vivant, c'est une grâce de Dieu. Je suis en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. J'ai ce que j'ai, c'est une grâce de Dieu, un privilège de Dieu. C'est Dieu qui me donne ça. Parce que lorsqu'on voit les choses, les gens voient, non, ils voient les choses de toi, tu ne mérites pas ça. Tu ne devais pas mériter ça. Tu devais mériter autre chose. On voit David. On voit beaucoup de gens. On voit Samuel. Samuel n'était pas de la lignée. Et il ne pouvait pas. Il vient remplacer Eli. Il y avait les enfants d'Eli. C'est eux à la charge. C'est eux de remplacer leur père. Non, et quoi, Samuel pouvait être bizarre. Moi, je ne suis pas de cette lignée. C'est bizarre, je ne mérite pas ça. C'est Dieu qui le fait grâce. Il ne devait pas naître. Sa maman en a prié. Dieu a exaucé. Et Dieu, l'Éternel a voulu que Samuel c'est le peuple. C'est un privilège, c'est un grand privilège. Quitter sa mère. Quitter sa maman. C'était une grâce que Dieu lui a faite. Vous savez quoi? Samuel va vivre pleinement. Dans cette grâce que Dieu lui a faite. Samuel va dire pleinement. Lorsque Élie va lui demander, lorsque Dieu va prononcer les sentences sur Élie, Élie va lui demander ce que Dieu va dire. Voilà, il va avoir peur. Après, il va dire, Dieu dit que non, te châtier, le châtiment. Parce que Samuel vivait pleinement cette grâce, cette miséricorde que Dieu lui a faite. Dieu lui a fait ça. Et que tu ne mérites pas. Mais tu vas remplacer, c'est pas. Dieu me fait grâce, Dieu me donne des choses par grâce, mais pas. Mais Dieu veut qu'on puisse vivre dedans. C'est que ce sentiment que je ne mérite pas, mais c'est Dieu qui me donne. Et donc, si je vis dedans, je suis capable. Lorsque j'expérimente ça, je suis capable de redonner cette grâce, cette miséricorde, cette grâce. Mais si je ne vis pas dedans dans ce que Dieu me donne, si je veux avoir l'occasion d'exprimer ça, non, et non. Je mérite. J'ai droit. Et que c'était devant Pilate. Pilate, que si moi je veux là, je peux te libérer. Il part, on va te libérer, on va te crucifier. Jésus, le quoi? Le Dieu fait homme. Il pouvait envoyer des anges. Jésus ne dit rien. Et que Jésus était silencieux devant Pilate. Comment ça? Il était silencieux. Parce que Jésus vivait pleinement dans cette grâce. Il savait que ce qui s'accomplissait là, c'était les prophéties qui s'accomplissaient. C'était la créature qui crucifiait son créateur. Pouvoir accomplir la promesse faite dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3. Qu'il voulait Dieu donner la semence de la femme qui va écraser la tête du serpent. Donc, Jésus, il savait que ce moment précis, c'était l'accomplissement des prophéties qui étaient en train de s'accomplir. Donc, il se soumettait à ça. Il vivait pleinement. Parce que Dieu lui a donné. C'est cette grâce-là, cette mission. C'est parce que Jésus même ne méritait pas de subir ça. Subir ça pour nous. Esaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Imaginez ça. Donc lorsque je vais vivre dans cette grâce-là, de voir ce que Jésus-Christ a fait, lorsque je vis dedans, lorsque je suis blessé, on marche dessus, je revois ça, et je peux pardonner parce que c'est ce qu'il m'a pardonné. T'es gracieux envers moi.
Après du parabole, là, la Bible, on dit qu'on a remis sa dette. Lorsqu'il sort là, il va attraper quelqu'un d'autre. Il a tiré une autre chose là.
Il ne dit pas dans la remise de dette. Il ne dit pas dans cette grâce-là. Dans ce que Dieu lui a donné. Il a fait une remise de dette.
Il nous a remis notre culpabilité. Je vais terminer avec un dernier verset de ce que Dieu nous a donné. On a Psaume 50, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, invoquez-moi au jour de la détresse. Et je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est Dieu qui nous fait cette invitation. Il nous appelle, s'assoit Dieu sur son trône, il nous appelle, il dit, invoquez-moi. Quel privilège. Dieu fait, non, vous êtes trop pécheurs. Ne m'invoquez pas, vous êtes trop pécheurs. Mais là, Dieu dit, invoquez-moi. C'est quelque chose que Dieu nous donne. L'invocation de Dieu, c'est un privilège que Dieu nous a donné. Et Dieu voulait qu'on puisse vivre dedans. Partout, on peut l'invoquer. Invoquer, c'est lui supplier. Je crie à quelqu'un, je crie de l'aide à quelqu'un. Je crie à Dieu. Dieu dit, invoquez-moi. C'est dans une situation où on invoque autre chose. Le diable voudrait qu'on invoque autre chose. Qu'on se tourne vers autre chose. Invoquez-moi. C'est tournez-vous vers moi. Dieu nous donne ce privilège-là. Il voudrait qu'on vive dedans. Les jeunes hébreux, ils étaient à Babylone. Daniel et ses amis. Ils disent, non, on est à Babylone, en terre étrangère. Comment on peut l'invoquer? Il n'y a personne avec qui on peut se tourner. Mais ils étaient obligés d'invoquer l'Éternel. Ils l'ont invoqué. Dieu a agi pour eux. Ils étaient en terre étrangère. Il dit, sur les rives de Babylone, nous étions comme assis. Et nos oppresseurs nous demandaient, chantez-nous des cantiques de Sion. Comment ils vont dire? Là-bas, ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel a répondu. Et Dieu les a délivrés. Dieu va les délivrer. Et c'est quelque chose, c'est un privilège que Dieu nous donne de l'invoquer. Crier à lui. Et on va vivre dedans. J'ai personne à crier. Tout est fermé là. Mais je crie aussi. Le ciel est ouvert. Je vais crier. Étienne a crié à l'Éternel. Étienne est parti. Hein. Mais lorsque Étienne était lapidé, les commentateurs disent que Paul était là. T'es là. Donc c'est Paul était converti après. Étienne a dit les mêmes choses que Jésus. Il dit, pardonne-leur. C'est quoi? Dieu a écouté ça. Dieu a vu quelqu'un à côté là. C'était Paul. Dieu l'a pris. Et invoqué. Dieu nous donne ça de l'invoquer. C'est un privilège. Ça, c'est merveilleux. Amen. Vivons dans tous ces trésors que Dieu nous donne. Et puis, ils vont expérimenter tout ça.